RFI 6h ici à Paris, il est 5h en temps universel.
Nemo en pisse.
Et c'est le début des RFI matin, nous sommes ensemble pour 3h. On commence cette édition avec le journal de Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de votre journal, l'ouverture à Paris du procès des geôliers de Daesh en Syrie.
Ou quand les otages du groupe État islamique retrouvent leur bourreau, 5 djihadistes accusés d'avoir retenu en otage 27 occidentaux, dont 4 journalistes français. Mehdi Nemouche sera sur le banc des accusés et cette question restera est-il mutique comme il y a 6 ans lors de son procès en Belgique pour l'attentat du musée juif de Bruxelles? Nous entendrons son avocat. Un témoignage rare d'un habitant de Bukavu dans ce journal. Il nous raconte les méthodes d'embrigadement des hommes du M23 qui ont pris le contrôle ce week-end du chef-lieu de la province du Sud Kivu en RDC. À suivre également le dossier ukrainien au cœur des discussions d'une dizaine de dirigeants européens réunis aujourd'hui à Paris. Nous verrons ensuite comment le Royaume-Uni protège son industrie sidérurgique face aux menaces américaines et puis du jazz en fin de journal avec le saxophone d'Adrien Souleyman.
Les tortionnaires du groupe État islamique en Syrie, jugés à partir d'aujourd'hui en France.
Un procès qui s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris, composée de magistrats professionnels. 12 ans après leur brutale captivité, 4 journalistes français, ex-otages en Syrie, feront donc face à 3 de leurs bourreaux. Laura Martel.
C'est un procès pour terrorisme singulier car il ne concerne pas un attentat. D'anciens otages occidentaux vont faire face à leur geôlier présumé. Parmi les ex-otages, des journalistes, dont 4 Français, Didier François et Édouard Elias, enlevés dans la région d'Alep le 6 juin 2013, 15 jours avant Nicolas Hénin et Pierre Torres kidnappés à Raqqa. Ils seront libérés après près d'un an d'une séquestration marquée par les tortures physiques et psychologiques. Un sort partagé par de nombreux humanitaires, dont l'Italien Federico Mocta et le Britannique David Hines. Le premier sera libéré, le second exécuté. Tous étaient aux mains de l'État islamique en Irak et au Levant, né en avril 2013, qui deviendra un an plus tard le groupe État islamique. Le 24 mai 2014, un mois après le retour en France des journalistes, Mehdi Nemouche abat 4 personnes au musée juif de Bruxelles. Arrêté à Marseille quelques jours plus tard, son visage étalé dans la presse est reconnu par certains ex-otages. Pour eux, il est Abou Omar, un de leurs geôliers de Syrie, un bavard particulièrement sadique. L'homme s'est depuis muré dans le silence lors de son procès en Belgique comme face aux enquêteurs français. Parmi ces 4 co-accusés, 2 hauts responsables de l'EI, absents et présumés morts, comparaîtront en revanche un franco-algérien, autre geôlier présumé, et un syrien accusé d'avoir facilité un enlèvement.
À précision signée Laura Martel.
Mehdi Nemouche sera donc à la barre à Paris pour un procès qui durera un peu plus d'un mois.
À la barre, face à la cour, mais sans doute mutique, comme c'était le cas lorsqu'il a déjà été condamné en 2019 à la perpétuité en Belgique, ce dans l'affaire des attentats du musée juif. Mehdi Nemouche est cette fois jugé pour avoir séquestré et torturé des otages du groupe État islamique en Syrie. Décrit comme bavard et particulièrement sadique par les ex-otages, Mehdi Nemouche, aujourd'hui âgé de 39 ans, conteste le rôle de geôlier qu'on lui prête. Maître Francis Vuillemin est son avocat.
Mehdi Nemouche aborde ce procès avec sérénité, tout simplement parce qu'il est déjà condamné à perpétuité pour l'attentat du musée juif de Bruxelles, ce qui fait qu'il ne risque plus grand-chose, et avec intérêt. De façon assez étonnante, il s'est plongé avec passion dans l'ensemble des pièces de ce dossier, qui fait quand même 26 volumes, ce qui a d'ailleurs favorisé mon travail, parce qu'il m'a trouvé un certain nombre de détails qui parfois avaient pu m'échapper, donc on a travaillé en concertation. Sa position sur le dossier, elle est celle qu'il a toujours eue devant le juge d'instruction, c'est-à-dire qu'il exerce son droit au silence. Il ne conteste rien, il ne reconnaît rien, il ne dit rien. Donc à partir de là, en tout cas concernant la séquestration des otages et les actes de barbarie, c'est à l'accusation de démontrer sa culpabilité éventuelle et c'est à moi de lutter contre cette tentative de démonstration du parquet. Depuis plusieurs années, je travaille à ce qu'il parle. Je crois y être parvenu, on verra bien. Ceci étant, parler, ça ne veut pas dire tout ce que la cour ou les parties civiles aimeraient entendre. Parler, ce n'est pas avouer des faits qu'on n'a pas commis.
Francis Vuillemin, avocat de Mehdi Nemouche.
La République démocratique du Congo dans ce journal est la ville de Bukavu, désormais sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.
Des colonnes de soldats ont été observées hier matin approchant du chef-lieu de la province du Sud Kivu. Une occupation confirmée et dénoncée par Kinshasa. Aujourd'hui, le calme semble être revenu. Les scènes de pillage ont cependant laissé place au discours des prises de parole d'hommes du M23. Pourtant, tenter de rassurer les habitants de Bukavu et les rallier à leur cause. Écoutez le récit de ce commerçant qui préfère rester anonyme pour des raisons de sécurité.
Effectivement, j'ai fait un tour et on a aperçu les militaires, les rebelles. Ils sont arrivés avec leur commandant, leur chef, le colonel Bernard Diamond. Et il nous a parlé, j'ai une vidéo là. Il a dit, ils sont venus nous libérer contre la mauvaise gouvernance de M. Tshisekedi. Et aussi, il nous a prodigué des conseils de ne pas bien nos voisins, les boutiques des amis. Et puis, il a commencé à conscientiser les jeunes pour entrer dans l'armée, pour aller libérer jusqu'à Kinshasa. La population acclamait par peur, comme je vous ai dit. Acclamait seulement. Toi, tu es devant un rebelle, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas seulement accepter ce qu'ils sont en train de dire. Les jeunes ont accepté, mais est-ce que c'est... Ça vient de l'air cœur, du fond de l'air cœur.
La situation en RDC et à Bukavu, au cœur également des discussions au sommet de l'Union africaine qui s'est refermé hier. Les chefs des États de l'organisation réunis à Addis Abeba en Éthiopie n'ont acté ni sanction ni condamnation explicite à l'égard de Kigali. Peu d'avances se sont matérialisées du point de vue congolais, alors qu'aucun plan de sortie de crise ne semble se dessiner dans cette assemblée très divisée.
Des soldats britanniques bientôt sur le front ukrainien.
Londres se dit en tout cas disposé à prêter main forte à Kiev en envoyant des soldats si cela est nécessaire. Déclaration du Premier ministre britannique alors qu'une réunion est prévue aujourd'hui à Paris entre une dizaine de dirigeants européens. Exclu des négociations de paix menées par les États-Unis et Donald Trump, ils tenteront d'élaborer une réponse européenne sur le dossier ukrainien et sur la sécurité du continent. Pour Nicolas Tesner, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions internationales, il faut que l'Europe se mette en marche et passe en économie de guerre.
C'est-à-dire que quand la porte est close par les États-Unis, ce qui est le cas, il faut forcer la porte, c'est-à-dire dire bah, « écoutez, il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine uniquement décidé par Poutine et Trump. Il faut non seulement que l'Ukraine, évidemment, soit partie, mais aussi les Européens. Donc nous refuserons, nous, Européens, tout accord qui serait négocié de manière séparée par les États-Unis et la Russie. Je pense que ça doit être le message. Mais bien sûr, ce message, il doit s'accompagner d'actions concrètes, c'est-à-dire que il faut absolument aujourd'hui que les Européens passent en économie de guerre, en termes de production, bien sûr, de d'avions, de busiers, etc. Et il faut vraiment qu'on passe à un niveau de défense pour nous protéger et pour aider l'Ukraine jusqu'au bout, qui est totalement inconnu jusqu'à présent. Les 3 ou 4% du PIB, je veux dire, il faut absolument définir une trajectoire en ce sens, parce que sinon, ce sera une réunion pour rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Européens, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, d'autres aussi, en sont totalement convaincus.
De son côté, Washington reste tourné vers Moscou pour obtenir la paix en Ukraine. Donald Trump a assuré hier qu'une rencontre avec Vladimir Poutine pourrait intervenir très bientôt. Le président américain assure que son homologue russe veut que les combats cessent. Déclaration avant des pourparlers en Arabie Saoudite entre une délégation menée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et des négociateurs russes. Marco Rubio qui était hier à Jérusalem pour assurer à Israël du soutien américain. Déplacement à un moment charnière du cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza. Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir aujourd'hui pour discuter de la suite de l'accord de trêve. Benjamin Netanyahou a par ailleurs envoyé une équipe de négociateurs israéliens, cette fois au Caire, pour établir les conditions de la poursuite de l'application de la première phase de cessez-le-feu.
Haïti dans ce journal, Simon, et cette ville, autrefois paisible, désormais cible des gangs.
La commune de Kenskoff, endeuillée, et ce encore hier, plusieurs morts sont à déplorer après une nouvelle attaque de bandits armés. La ville est désormais la cible incessante de la coalition de gangs Vivre Ensemble. Correspondance de Peterson Lux Sama depuis Port-au-Prince.
Une nouvelle fois, les gangs armés ont frappé à Kenskoff et semé le deuil dans le camp des forces de l'ordre. Un militaire des forces armées d'Haïti et deux agents de la brigade de sécurité des aires protégées ont perdu la vie lors de l'attaque des bandits. L'information a été confirmée par le ministère de la Défense via un communiqué de presse au cours de la journée. Il était environ 3h du matin, ce dimanche 16 février, quand les gangs armés ont lancé cette nouvelle offensive sanglante contre la commune, notamment dans la zone stratégique où sont installées les antennes de toutes les stations de radio radio et de télécommunications, communément appelées bases télico, selon le maire de la ville, Jean Massillon. Après des heures d'échange de tirs, les forces de l'ordre ont finalement repoussé les bandits, au dire de Lionel Lazare, porte-parole de la police nationale d'Haïti.
Pour le moment, la police reprend le contrôle.
Pour le moment, la police a repris le contrôle de la zone stratégique téléco qui était occupée par les bandits armés. À présent, les interventions se poursuivent au niveau de Kenskov pour continuer à repousser les gangs.
Une annonce qui ne rassure pourtant pas les habitants de Kenskov qui restent inquiets. Pour eux, ces offensives répétées des gangs montrent que la menace est loin d'être éradiquée. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Il est 5h10 à Londres. Le Royaume-Uni protège son industrie sidérurgique face aux menaces américaines.
3 milliards d'euros sur la table pour soutenir l'acier britannique. C'était une promesse de campagne des travaillistes et le Premier ministre Keir Starmer a décidé de passer aux actes et ce plus vite que prévu. Il faut dire que la pression américaine est grande. Dès le mois prochain, des droits de douane de 25% seront appliqués sur l'acier et l'aluminium importés. Justine Fontaine.
Le Royaume-Uni exporte à peu près 10% de son acier vers les États-Unis. Cela semble peu, mais la perspective de droits de douane américains de 25% viendrait fragiliser un secteur déjà sinistré, car Londres craint que les autres pays visés par cette mesure cherchent à écouler ailleurs leur production d'acier en cassant les prix. Des milliers d'emplois ont été supprimés ces derniers mois ou bien sont sur le point de l'être dans des aciéries britanniques, en partie à cause de la hausse du coût de l'énergie et de la concurrence d'acier bon marché produit notamment en Asie. Avec ce plan, le Royaume-Uni cherche donc à favoriser l'utilisation d'acier local dans les chantiers publics ou encore à financer la transition énergétique du secteur. Ailleurs dans le monde, l'Union européenne ou encore le Brésil et le Canada ont promis des représailles face aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par Donald Trump, mais sans annonce claire pour l'instant, car tous tentent en même temps de négocier avec Washington et espèrent encore obtenir une exemption ou bien l'annulation du décret à la dernière minute.
Justine Fontaine, DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise bannie en Corée du Sud. L'application sera retirée des boutiques d'applications locales, une décision motivée par les incertitudes sur l'utilisation des données des utilisateurs par l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, cette fois, par contre, rien ne semble freiner les ambitions d'Elon Musk. Le milliardaire doit présenter aujourd'hui la version 3 de Grok, son intelligence artificielle qu'il promet comme la plus intelligente sur Terre.
Et puis, pas d'intelligence artificielle, mais bien le talent d'un musicien hors pair pour refermer votre journal, Simon.
Pour le plaisir de vos oreilles, du jazz avec Adrien Souleyman. Le saxophoniste et producteur français sort son deuxième album, 8 titres que nous fait écoutez Olivier Roger.
À l'époque des machines musiciennes et autres compositeurs virtuels, les instrumentistes ont des atouts à faire valoir. Bell Jazz Club et ses 8 pistes d'une musique aussi originale qu'envoûtante clament haut et fort une évidence qu'on a parfois tendance à oublier. Rien ne remplacera jamais la force émotionnelle d'une bande de musiciens exprimant leur liberté, leur versatilité et surtout leur virtuosité. Adrien Souleyman, saxophoniste, jazzman, amoureux de la pop musique, est un artiste hors norme, ce qui n'a pas échappé au milieu parisien qui lui court après pour produire et composer. De Juliette Armanet à Philippe Catherine, en passant par Malik Djoudi, tous les talents actuels font appel à ses services. Résultat, Bell Jazz Club n'est que le deuxième album personnel qu'il a eu le temps de composer en une décennie. Une œuvre élaborée en compagnie d'une dizaine de musiciens et d'artistes réunis en studio. La musique est un partage, affirme Adrien Souleyman. Et le jeu collectif, un plaisir infini, dit-il. Alors, prenons du plaisir.
Adrien Souleyman, que l'on retrouve pour le choix musical de RFI, ce sera avant le journal de 9h, heure de Paris.
C'était le journal de Simon Bourtembourg. RFI Matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, heure de Paris. Au programme ce lundi, les derniers développements dans l'est de la République démocratique du Congo. Hier, des soldats du groupe armé M23 soutenus par le Rwanda ont été aperçus dans Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Situation toujours très floue, notamment au niveau des bilans. Nous appellerons Paulina Zidi, notre envoyée spéciale permanente à Kinshasa, dans le journal de 8h, pour faire le point. Une situation au cœur de nos journaux Afrique. Également, l'invité de Christophe Boisbouvier à suivre, l'opposant centrafricain Dominique Yandoka. Il raconte son passage en prison en 2024. là où il affirme avoir été empoisonné. Alors que se profile la présidentielle, il milite pour une alternance démocratique dans son pays. Rendez-vous dans une demi-heure. Sylvie Goulard sera également l'invitée d'RFI Matin. Un point sur la sécurité en Europe. Alors qu'aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron reçoit une délégation bien choisie du vieux continent, bientôt 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Paris où s'ouvre aujourd'hui, vous l'avez entendu, le procès d'idées geôliers de l'État islamique en Syrie devant la cour d'assises spéciale de Paris. À la barre, entre autres, Mehdi Nemmouche, déjà condamné à perpétuité après son attentat au musée juif de Bruxelles. C'était le 24 mai 2014. À suivre également vos rendez-vous habituels. Dans Aujourd'hui l'économie, Stéphane Geneste nous parle de la balance commerciale de l'Italie. Les chiffres de l'année 2024 vont être dévoilés ce matin et Rome, championne des exportations en Europe, pourrait perdre son statut de leader. Notre question d'environnement, comment le secteur maritime responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre va-t-il s'organiser pour décarboner ses activités? Paul Inglès vient nous apporter quelques éléments de réponse. Frédéric Couteau sera là également pour ses revues de presse internationales et africaines. Les sports avec Antoine Grenier, du football ce week-end. RFI, 6h16 ici à Paris, 5h16 en temps universel. On prend la direction du continent asiatique. En Australie, précisément, où la télévision publique ABC s'est procuré des statistiques policières qui révèlent que lors de ses contrôles et ses fouilles, les officiers procèdent à un profilage ethnique. Nous sommes à Sydney en ligne avec notre correspondant Grégory Pless. Bonjour Grégory.
Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Et vous nous dites que ces données révélées sont particulièrement éloquentes.
Hélas oui, puisque effectivement les données compilées par ABC révèlent qu'entre 2020 et 2023, les aborigènes, à raison de leur nombre dans la population générale de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, sont 5,6 fois plus susceptibles d'être contrôlés que la population caucasienne, autrement dit les Blancs. C'est 4 fois plus pour les personnes issues de la communauté africaine et près de 3 fois plus pour ceux originaires du Moyen-Orient et du Pacifique. Cette disproportion des contrôles et des fouilles effectuées par la police visant les minorités est constatée ailleurs qu'en Nouvelle-Galles du Sud. À vrai dire, c'est le cas dans à peu près tous les États australiens. Ainsi, dans le Victoria, les aborigènes sont 11 fois plus susceptibles d'être fouillés et les Africains 8 fois plus. Par ailleurs, il faut souligner que ces données sur l'appartenance ethnique, elles sont problématiques en elles-mêmes car elles sont notées par les policiers qui, eh bien, déterminent l'appartenance ethnique des personnes qu'ils contrôlent selon leur propre idée des origines de ces dernières et on ne prend pas en compte leur déclaration en la matière. Alors, du côté officiel, les autorités policières assurent pour leur part que le profilage ethnique est totalement prohibé, que si des policiers s'y adonnent, ils seront sévèrement punis, voire même licenciés en cas de très grande gravité.
Cette forme de harcèlement, elle a bien sûr des conséquences, Grégory. Vous nous le disiez en particulier sur la communauté aborigène.
Absolument, parce que comme le rappellent de nombreux militants, les aborigènes sont le peuple le plus incarcéré du monde. Près d'un tiers des personnes en prison en Australie sont aborigènes, alors que ces derniers, d'après les derniers chiffres du recensement, ne représentent que 3,5% de la population. Et on en arrive là, ça, d'autres études plus anciennes l'ont montré, parce que, eh bien, pour un même délit, les aborigènes, qui ont donc déjà un risque plus élevé d'être contrôlés, sont condamnés presque systématiquement plus lourdement que les personnes d'origine caucasienne. S'ajoute également à cela le fait qu'ils vivent pour beaucoup sous le seuil de pauvreté et que dès lors, ils n'ont pas les moyens de bénéficier d'une liberté sous caution. Rappelons enfin que plus de 500 aborigènes, parmi lesquels des mineurs, sont morts en détention au cours des 30 dernières années. Et alors que, dans la plupart des cas, ces derniers s'y étaient retrouvés pour des délits tout à fait mineurs, comme par exemple le fait d'être ivre sur la voie publique.
Grégory, y a-t-il... Allez-y, pardon.
Alors, j'allais ajouter qu'il y a certaines personnes qui proposent des solutions. C'est le cas notamment de la représentante du service d'aide juridictionnelle aux aborigènes. Elle plaide pour la mise en place d'un médiateur indépendant chargé d'examiner les affaires policières. Et elle prône cette solution parce qu'elle estime que la police ne peut pas être à la fois jugée partie et qu'elle est donc incapable de régler elle-même ce problème de racisme systémique dans la police australienne.
À Sydney, il est 16h19. Merci Grégory Pless.
RFI Matin.
Il est bien 6h19 ici à Paris. Dans une heure, nous appellerons Sylvie Goulard, ancienne députée européenne, enseignante à l'université Bocconi de Milan. Elle sera votre invitée, Édouard Dupénoit.
Et oui, au lendemain d'une conférence sur la sécurité à Munich, rendez-vous annuel, mais qui, en 2025, a été l'occasion pour les États-Unis de signifier très explicitement que leur rôle de gendarme du monde, celui en tout cas que l'Europe voulait bien leur donner, eh bien que ce rôle touche à sa fin. D'autant que l'on a appris hier, vous l'évoquiez tout à l'heure Nemo, que l'Élysée invitait à la hâte une demi-douzaine de capitales européennes et de grandes institutions aujourd'hui à Paris, dans ce qui ressemble à un branle-bas de combat un peu en urgence. On demandera donc à Sylvie Goulard d'abord son sentiment au lendemain de cette conférence de Munich. Est-ce que l'Europe est prête à se passer de son parrain américain? Est-ce que même les États-Unis, il est souhaitable à ses yeux qu'ils jouent encore un rôle de parrain pour l'Union européenne? Et dans le cas contraire, de quoi les prochaines semaines et les prochains mois pourraient être faits.
Entretien avec Sylvie Goulard dans une heure. Rendez-vous aux alentours de 6h20, temps universel. À tout à l'heure, Edouard. Vous en avez peut-être vu ces dernières années traîner dans les rues ces cartouches de protoxyde d'azote, des petites bonbonnes de gaz à l'origine utilisées pour les siphons à crème chantilly ou à usage médical. Mais c'est un gaz de plus en plus régulièrement utilisé pour ses effets euphorisants. Il est même devenu, derrière le cannabis, la deuxième substance la plus consommée en France chez les 13-25 ans. Si le protoxyde d'azote est déjà interdit à la vente aux mineurs dans les bureaux de tabac ou les débits de boissons, il reste facilement accessible en grande surface ou en ligne. L'Assemblée nationale a donc récemment adopté une loi qui vise à renforcer la prévention et à limiter l'accès aux professionnels. C'est un reportage de Marie Casadebé et de Lisa Barrel-Frémo.
Paralysie des jambes, paralysie des mains. Quand je fermais les yeux, je suis tombé. Une infection au poumon, j'en ai perdu un.
Sofiane a 22 ans, il était plombier. À cause de sa consommation de gaz hilarant, il a dû arrêter son métier.
La première fois que j'en ai pris, c'était pendant le confinement, en 2020 je crois. Je devais avoir 19 ans et après j'ai continué. C'était quotidien. En fait, on pouvait ressentir une sensation de joie, on oubliait les problèmes et si on arrête le ballon, au bout de 10 secondes, l'effet il se dissipe. On avait envie d'en refaire en fait.
Il y a un an environ, il est hospitalisé, il n'arrive plus à respirer. Et pour cause, un de ses poumons ne fonctionne plus, il perd aussi l'usage de ses jambes. Encore aujourd'hui, il suit un programme de rééducation.
Je suis resté en fauteuil roulant 6 mois, c'est comme si nos muscles étaient retournés à zéro. J'ai récupéré mes jambes avec le temps Alors d'aujourd'hui, je travaille toujours sur la force musculaire.
Le protoxyde d'azote est le plus souvent utilisé par des professionnels dans le milieu médical comme anesthésiant ou encore dans l'agroalimentaire. Les jeunes le consomment pour ses effets euphorisants. Ils percent les cartouches, remplissent un ballon avec et l'inhalent. Françoise Cochet connaît bien les effets de ce gaz sur la santé. Elle est présidente de l'association APEAS qui lutte contre les jeux dangereux.
Le problème, c'est que ces gaz traversent la paroi des alvéoles pulmonaires, passent dans le sang et arrivent instantanément au niveau cérébral. Le danger majeur de toutes ces pratiques d'inspiration de n'importe quel autre gaz que l'air, c'est le risque d'arrêt cardiaque.
Et le consommateur peut rapidement devenir dépendant. C'est ce qui est arrivé à Sofiane.
Dès la première consommation, on devient addict. Dès qu'on commence à ressentir les effets, c'est fini, après on a envie d'en refaire. Par mois, des fois je pouvais utiliser 600 euros. Ça dépendait de mon budget à moi, mais si j'avais l'argent pour consommer, j'achetais. J'avais pas de limite.
Aujourd'hui, Sofiane a arrêté d'en consommer et témoigne. Pour lui, limiter l'accès du protoxyde d'azote aux professionnels est une bonne chose. Mais pour Françoise Cochet, ce n'est pas la solution.
Pour nous, la seule façon de contrer ces accidents, c'est la prévention. Donc la prévention d'une part des adultes, pour les informer, les parents mais aussi les professionnels. Et puis, bien évidemment, la prévention auprès des élèves.
Il y a une dizaine de jours, les députés ont adopté cette proposition de loi. Prochainement, ce sera le Sénat qui se prononcera sur le texte.
Et cette loi portée par le député LFI, Idir Boumerti, entrera donc en vigueur au 1er janvier 2026. Reste à déterminer quelques détails, notamment les catégories professionnelles autorisées à acheter ce gaz par dérogation. Cela reste le mode de transport le plus important pour l'économie actuelle. 9 biens commercialisés sur 10 sont encore aujourd'hui transportés par bateau, ce qui rend le secteur maritime responsable de près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À titre de comparaison, c'est à peu près autant que le secteur aérien. L'Organisation Maritime Internationale s'est donc fixé des objectifs de décarbonation. les 176 pays membres de l'OMI doivent désormais se mettre d'accord. Mais alors, où en sont les négociations? C'est notre question d'environnement ce lundi. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Pauline, un groupe de travail se réunit à partir d'aujourd'hui pour des négociations intermédiaires.
Oui, et plusieurs questions sont en discussion, dont des questions sur les normes, des questions techniques pour parvenir à l'objectif de neutralité vers 2050. Et avant ça, pour remplir les objectifs intermédiaires, au moins 20% de réduction en 2030 par exemple, le choix entre plusieurs carburants alternatifs au fuel lourd qui domine actuellement est en débat. Écoutez Constance Dextra de Transport et Environnement.
Il va y avoir un très gros débat sur qu'est-ce que c'est qu'un carburant propre. Est-ce que c'est un carburant qui serait à base de biomasse, ou alors est-ce qu'un carburant propre, c'est un carburant qui émet le moins de gaz à effet de serre possible et qui serait donc plus proche d'un carburant à base d'hydrogène vert?
En attendant, d'autres méthodes peuvent permettre de réduire l'empreinte carbone, réduire la vitesse par exemple.
Et l'un des enjeux, Pauline, pour les membres de l'OMI, c'est également de s'entendre sur des mesures pour inciter financièrement les armateurs à agir.
Les deux visions s'opposent encore. Certains pays souhaitent que ces mesures économiques soient un volet des normes d'émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, les bateaux qui émettraient moins que la limite imposée pourraient vendre des quotas carbone à ceux qui les dépasseraient. L'autre option, c'est une taxe. C'est l'option défendue par Bastien Bonnet-Cantaloube. Cet expert de l'association Carbon Market Watch voit dans une taxe à 100 ou 150 dollars la tonne de gaz à effet de serre la meilleure incitation à la décarbonation et un moyen de générer des revenus conséquents.
Ces revenus-là, ils vont être absolument clés pour répondre en fait à deux objectifs de la stratégie de l'OMI. Un, récompenser les flottes de bateaux qui utilisent des carburants verts. Actuellement, il faut savoir que les carburants verts, ammoniac vert ou méthanol vert, sont beaucoup plus chers. Et de deux, il faut aussi répondre à l'urgence de financer une transition juste et équitable. Donc ça, c'est les mots de la stratégie de l'OMI, notamment pour protéger d'impact les pays les plus vulnérables.
Cette taxe, c'est ce que souhaitent l'Union européenne, les pays du Pacifique et certains États africains. Selon le média Climate Home News, le Libéria, par exemple, s'est récemment prononcé en sa faveur.
Certains pays d'Afrique font partie des pays les mieux positionnés pour faire face à certains des impacts d'augmentation de prix sur le commerce maritime, mais plus généralement aussi des impacts de la transition écologique ou du changement climatique de manière générale. Et donc, ils comprennent la nécessité d'avoir des revenus générés pour s'adapter et faire face à ces impacts-là.
Mais voilà, cette taxe pourrait renchérir les produits qui voyagent le plus. La Chine, le Brésil, d'autres pays sud-américains préfèrent s'en tenir donc à un standard de carburant, à des normes sur les émissions. L'Afrique du Sud ne souhaite pas non plus de taxe internationale sur les émissions du secteur maritime.
Les réponses à cette question d'environnement avec vous, Pauline Glaise, on vous retrouve tout à l'heure. Dans un instant sur RFI, le retour de l'actualité africaine avec Paul Lonsin-Spinelli. Nous sommes à Addis Abeba dès le début de ce journal. On revient sur le sommet annuel de l'Union africaine qui s'est refermé hier. En attendant, petite pause musicale. On écoute L'Océan des Amoureux, titre d'Alyosha Schneider, soigneusement sélectionné par les programmateurs d'RFI. C'est dans la playlist du moment.
Bébé, peu importe, nos vies font que commencer. T'as voulu te faire le mal, voir ailleurs. Vers le large, que le vent te porte, que tes voiles se tendent. C'est pas le fait que tu partes qui fait mal, c'est la façon de s'y prendre. C'est la façon de s'y prendre.
L'Océan des Amoureux, Alyosha Schneider, vous restez avec nous sur RFI dans un instant, toute l'actualité africaine.
Tu peux quitter le port, tu peux prendre la mer.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
toutes vos questions en direct sur l'activité physique et la santé.
Demain,
quand l'écriture guérit, un refuge, une thérapie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Après la vidéosurveillance, le Royaume-Uni se met à l'heure de la reconnaissance faciale, une technique interdite en Europe. Pour les commerces, il s'agit de lutter contre la criminalité, mais on parle aussi d'une dérive non encadrée par le droit.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.